Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes lives Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner.
Ok. Let's go sur Reddit. C'est parti. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, Reddit France, avec sa merveilleuse bannière estivale featuring nos chers présidents à la playa. Et certains plus réalistes que d'autres, je pense, quoi. Qu'est-ce que ça raconte? Deux campagnes de prévention de l'alcool enterrées par le ministère de la Santé. Bah, on va peut-être aller voir ça parce qu'on a parlé tabagisme, du coup, un petit peu, avec l'interdiction des puffs et le fait que je fume des méga clopes. Mais on n'a pas parlé alcool et ça peut être intéressant. Ah, infiltré pendant un an chez les woke. Bah, on va être obligé de faire ça. Hein. On va d'abord faire petite session alcool et après, on ira voir le sujet qui picote, quoi. Donc, alcool, deux campagnes de prévention enterrées par le ministère de la Santé. Un article de Radio France. De la cellule investigation de Radio France. Ok, je vais vous le lire comme d'hab. Le ministère de la Santé a annulé deux campagnes élaborées par Santé publique France, dont l'une avait pourtant été commandée par la Direction générale de la Santé. Déjà, on adore tout ce qui est dépenser de l'argent pour faire des choses et ne jamais les publier. Les associations dénoncent le poids du lobby de la filière viticole. La Coupe du monde de rugby vient de débuter en France, et comme de coutume, des cortèges de supporters se regroupent dans des bars ou à domicile pour regarder les matchs. C'était une occasion rêvée pour les acteurs de la prévention de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En prévision de la compétition, en novembre 2022, la Direction générale de la Santé, la DGS, l'une des directions du ministère de la Santé, avait donc demandé à Santé publique France, l'Agence nationale de santé publique, de travailler sur une campagne de prévention sur le thème « Alcool et rugby ». Elle aurait dû être diffusée en ce début septembre. Or, selon les informations de la cellule investigation de Radio France, elle a tout simplement été annulée. Tout était pourtant prêt. Le scénario, un coach de supporters, physique de costaud, devait rappeler aux spectateurs d'éviter les abus d'alcool. « Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO », disait le slogan « Restez dans les cartons ». Une autre campagne a connu le même sort, comme le révélait cet été le Canard enchaîné, édition du 12 juillet 2023. Intitulée « Quand on boit des coups, notre santé prend des coups », elle montrait des personnes en train de boire un verre, avec sur l'autre partie de l'image les messages de prévention suivants. « Boire de l'alcool multiplie les risques de troubles du rythme cardiaque » ou encore « Boire de l'alcool multiplie les risques d'AVC hémorragique ». Et donc on a la pub ici. Avec voilà, des personnes qui boivent des coups et les effets sur leur corps, bon, une campagne assez basique. Cette campagne qui a nécessité plus d'un an de travail ne sera finalement pas diffusée sur les écrans de télévision ni publiée sur les panneaux d'affichage comme cela était pourtant prévu. Selon nos informations, les visuels des deux campagnes ont été présentés par Santé publique France en présence et avec l'appui de la DGS, donc la Direction générale de la Santé, fin mai 2023 au cabinet du ministre de la Santé d'alors, François Braun. Quelques semaines plus tard, le coup retombe. Ces deux campagnes sont annulées. Le ministère donne en revanche son aval pour une campagne de prévention à destination des jeunes. Intitulée « C'est la base », elle reprend les principes d'une précédente campagne diffusée en 2019, à savoir « Faire attention à ses amis s'ils boivent trop, boire aussi de l'eau en soirée et ne pas oublier de manger ». Elle sera diffusée prochainement, notamment sur les réseaux sociaux, ce que nous confirme le ministère de la Santé. Dans le contexte d'un nombre important de campagnes portées par l'État et ses opérateurs, dont Santé publique France sur le deuxième semestre 2023, il a été décidé de revoir les priorités sur la thématique alcool et de prioriser la cible jeune, nous écrit un membre du cabinet. Ces arbitrages ne surprennent pas Myriam Savy, directrice du plaidoyer au sein de l'association Addiction France. Les campagnes de prévention à destination des jeunes ou des femmes enceintes ne dérangent pas les alcooliers, car elles sont ciblées, explique-t-elle. En revanche, les deux campagnes censurées visent la population générale qui consomme de manière régulière de l'alcool. On leur dit l'alcool comporte un risque pour la santé, c'est un facteur de risque de cancer, et ça, la filière alcool n'aime pas. Myriam Savy dénonce les pressions effectuées par les alcooliers sur les pouvoirs publics, et en particulier l'Élysée. Mais de quelles pressions parle-t-on ? D'après nos informations, Vins et Sociétés, le principal lobby français du vin, qui regroupe 500 000 producteurs et acteurs de la filière, a envoyé un courrier incendiaire le 12 janvier dernier à Emmanuel Macron. La missive a été écrite en réaction à la campagne de prévention de Santé publique France diffusée pendant les fêtes. Cette dernière pointait du doigt le paradoxe de trinquer à la santé de quelqu'un, alors que justement l'alcool ce n'est pas la santé. Cette formulation a fait bondir Vins et Sociétés. Le lobby a dénoncé auprès d'Emmanuel Macron un slogan inepte. Cette campagne ne montre aucune scène de consommation excessive d'alcool, simplement des familles et des amis qui se retrouvent, des moments de partage qui unissent plusieurs générations. S'insurge Vins et Sociétés, qui a toujours préféré communiquer sur le fait que c'est l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé, pas la consommation d'alcool en soi. Un scan de la lettre. Un biais dénoncé par les associations comme France Addiction qui rappelle que la simple consommation accroît le risque de cancer et de maladies cardiovasculaires. Le courrier de Vins et Sociétés est-il à l'origine de l'annulation des deux campagnes programmées ? Selon nos informations, le cabinet d'Emmanuel Macron a répercuté les récriminations de la filière alcool auprès du cabinet de François Braun. Par la suite, nous explique une source bien renseignée, il y a eu une forme d'autocensure au ministère. Ils ont flingué les deux autres campagnes, nous dit-on. Le nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, sera-t-il sur la même ligne ? Apparemment, on en prend le chemin. Après l'annulation des deux campagnes, il a été proposé d'en rediffuser une ancienne, datant de 2019, articulée autour des slogans suivants. Au-delà de deux verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Mais cette proposition a été refusée cet été par le cabinet d'Aurélien Rousseau. C'est extrêmement inquiétant, réagit Myriam Savy de l'association Addiction France. Elle rappelle que le coût social de l'alcool est de 102 milliards d'euros. On a l'impression que les intérêts économiques de la filière alcool passent avant la santé de la population. Ces questionnements ne sont pas nouveaux. En 2019, les acteurs de la prévention s'étaient déjà émus du volte-face gouvernemental sur le Dry January, le mois sans alcool. Au dernier moment, le gouvernement avait retiré son soutien à cette opération, laissant aux associations le soin de l'assumer seule en dehors de toute politique publique. Interrogé sur de possibles pressions du lobby de l'alcool, le cabinet d'Aurélien Rousseau ne nous a pas répondu tout comme sur ce point, tout comme le conseiller presse d'Emmanuel Macron. Le ministère de la Santé se contente de nous faire savoir que le site en ligne Alcool Info Service va être renforcé. Un numéro vert ou bien ? Bonjour Lune Virtuelle, welcome, on parle de tease. Les campagnes qui visent que les jeunes, par contre, Dédé qui tourne au rouge depuis 45 ans, on n'y touche pas. Des pressions du lobby du vin, on ne peut pas y croire. Mais de quelle pression parle-t-on ? Eh oui, vous l'avez. Les mêmes pots de vin, vous êtes en forme. C'est quoi la conséquence si on diffuse quand même les campagnes ? Ils vont bouder. Bah, je pense qu'il y a un mix de... Parfois corruption financière, genre ils payent, et parfois pression de genre si le lobby du vin il monte tous ses membres contre voter pour le parti d'Emmanuel Macron par exemple, c'est la Hesse, ou si ils menacent de faire des grèves et de bloquer, tu vois. Mais je sais pas, autant les flics je comprends quoi, genre je comprends que t'es là, t'es Macron, t'es là, je vais peut-être pas énerver les flics parce que ils ont des flingues et c'est un peu eux qui me protègent de la population. Mais j'avoue, le lobby du vin, je suis là, bah vous allez faire quoi, vendre du vin en Russie, enfin, what ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Du coup, si vous savez, ça m'intéresse. On va aller voir ce que Reddit en dit, je pense qu'ils vont en dire à peu près comme vous. La drogue c'est mal, mais pas les drogues traditionnelles avec un lobby bien implanté, d'accord ? Et comme on n'a jamais vu de jeunes se prendre une cuite au Cabernet Sauvignon, checkmate. C'est une référence que je n'avais pas. Anecdote. Quand j'étais dans ce fameux IUT à Grenoble, on se faisait chier, mais j'avais quand même deux, trois trucs cool, genre un mec super chouette et quelques potes. Et mon mec avait un pote qui était issu d'une famille extrêmement bourgeoise de type noble. Genre le gars, il avait un prénom composé et un nom de famille à particules, genre... Ça va. Et c'était pas juste vieille noblesse qui est ruinée. Il m'a confirmé que oui, ses parents et notamment son père sont blindax, mais ont décidé de le faire vivre comme un étudiant normal dans un petit appart. Genre, il lui filait autant que mes parents me filaient, ce qui est déjà bien. Hein. Mais il vivait pas du tout la grande vie, donc on faisait des soirées normales chez lui, quoi, en mode soirée étudiante. Et un soir, il nous avait invités à boire un petit coup avec du coup mon mec de l'époque. Nous, on se pointe, étudiant fauché. On amène, voilà, on se pointe avec un sachet de curly cacahuètes. Je sais même pas si c'était des curly marque curly ou des curly marque Auchan, tu vois. et genre un pack de 16, tu vois, enfin, étudiant, quoi. Et le gars, il me dit, écoutez, j'ai aidé un pote de mon père avec, sur un truc, et il m'a offert un cadeau pour me remercier, et c'était une caisse pleine de bouteilles de mouton cadet. C'est du bon vin, le mouton cadet. On s'est pinté au mouton cadet, la mif, c'était la soirée, et au cœur, les cacahuètes, c'était la soirée étudiante la plus absurde. Mais donc voilà, même quand on n'a pas les sous de papa, on a parfois des avantages en nature, et on n'est pas obligé de faire des soirées étudiantes avec le vin rouge pas cher, là. Quoique, un petit Sidi Ibrahim, en vrai, moi, je crache jamais dessus, mais c'est mon côté prolo. Mashallah indeed, sachez qu'on n'a pas eu de gueule de bois, voilà. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, sur le chat, on me dit « Milieu du vin égale beaucoup de moula égale soutien politique et financier potentiel ». Et décevant, mais pas surprenant, vu comme le lobby du vin est fort, je me souviens d'une personnalité politique qui, pendant une interview, disait que le vin n'était pas dangereux, que c'était pas comme les alcools forts et tout. Oui, je me souviens aussi. C'était bah, une personnalité... C'était assez récent, non ? Alors, de quoi ça raconte sur Reddit ? Ok, donc on a un commentaire qui dit « Les deux campagnes s'adressaient au tout public, avec des messages de prévention de type « boire de l'alcool multiplie les risques, du trouble cardiaque, blablabla ». Autrement dit, la seule campagne qui sera diffusée est celle qui s'adresse aux jeunes et soutient l'idée que faire la fête ne va pas sans alcool et qu'il suffit d'appliquer quelques principes éculés pour ne pas se mettre en danger. Boire aussi de l'eau en soirée, on croit rêver. On constate que les articles de presse qui dénoncent cette censure commandée par les lobbies viticoles ne relèvent même pas la désinformation qui se cache derrière la campagne épargnée. Qui plus est, les articles sont systématiquement illustrés d'une alléchante image de verre de vin, tandis que le visuel des campagnes est tout flou, voire tronqué. Ah, et on a Snowpingui sur le chat qui dit « Dans un complément d'enquête il y a 2-3 ans, on nous montrait que certains députés qui faisaient partie des groupes de réflexion concernant l'alcool et le vin avaient lui-même une marque de vin. » Yes, on adore, hein. Petit conflit d'intérêt ou pas ? Pour le coup, la stratégie « boire mais avec modération » ne me semble pas entièrement à côté de la plaque, même si c'est gênant que ce soit la seule campagne conservée. Tu vas jamais convaincre un jeune d'arrêter de boire de l'alcool en soirée par une campagne gouvernementale. Un discours aussi moralisateur, même si pas infondé et naïf, est inaudible auprès d'un public en pleine découverte des expériences de la vie. C'est aussi le problème que beaucoup critiquent avec les campagnes contre le cannabis. On dit juste aux jeunes de ne pas fumer, merci Sherlock, attendez. Et on leur explique pas comment bien fumer. Et quelqu'un répond, c'est d'ailleurs un des enjeux de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis, tant que c'est purement interdit de tirer sur un joint, une campagne gouvernementale ne peut pas porter un autre message que « faut pas fumer puisque c'est illégal ». À ce sujet, il y a un super outil qui s'appelle l'espace santé étudiant de Bordeaux, que je connais parce que il m'avait invité plusieurs fois à intervenir, ce qui était très cool dans leurs initiatives. Et donc c'est un truc qui parle aux étudiants et étudiantes de Bordeaux, hein, n'est-ce pas ? Et qui a un stand sur le campus et qui organise plein de trucs. Et ils ont notamment... Alors moi je l'avais vu sur leur compte Instagram, voilà. En fait ils ont plein de trucs, et c'est pas les seuls, hein, mais j'y pense parce que moi c'est là que je l'avais vu, qui expliquent comment bien consommer... comment consommer des trucs sans mal le faire, quoi. Donc là, il y a des petits rappels en mode « tu as le droit de ne pas boire », mais ils avaient fait, voilà, par exemple sur le Poppers, ils expliquent les effets recherchés, avec en plus des beaux designs qui pour le coup font pas du tout communication gouvernementale boring. Donc sur le Poppers, ils disent « voilà, les effets recherchés, c'est euphorie, excitation, chaleur, relâchement musculaire, etc. » Les autres effets possibles et la durée d'agissement du truc, et les effets à long terme aussi, les risques. Comment réduire les risques, du coup, bah, comment, voilà. L'idée, c'est pas ne prenez pas de poppers, c'est si vous prenez du poppers, voilà comment bien en prendre, donc espacer les prises. En cas de maux de tête et ou de vertige, cesser l'inhalation. Ne jamais utiliser le poppers près d'une flamme. Éviter le contact avec la peau. Éviter de consommer debout pour ne pas tomber. Et, du coup, il y a une slide qui dit le meilleur moyen de réduire les risques est de ne pas consommer. Cependant, si tu décides de le faire quand même, essaye de consommer quand tu n'es pas seul et quand tu te sens bien. Quelle que soit la substance, ne consomme pas à jeun, ne conduis pas, ne mélange pas les produits. Pense à te protéger, à utiliser du lubrifiant en cas de rapport sexuel, en cas d'urgence, fais ça et tout. Donc je trouve que c'est vachement bien parce que c'est une façon de faire de la prévention. Et encore une fois, je sais que c'est pas qu'eux qui le font, hein, que ça existe beaucoup, notamment dans le monde de la nuit, de la fête, etc. Mais je trouve que c'est hyper intéressant comme façon de parler de drogue et de consommation de substances sans être dans un discours hyper moralisateur de « c'est pas bien, il faut pas faire ça », et en proposant un truc qui est vraiment, je trouve, adapté à la cible, quoi. Moi, quand j'étais à la fac, si j'avais vu ça, ça m'aurait mille fois plus parlé que les trucs gouvernementaux en mode « c'est pas bien, quoi ». Il manque juste un mot sur le consentement. Je suis pas sûre que le truc se marche avec le poppers parce que je pense pas que le poppers, ça... En fait, ça a un effet vraiment très court. Donc je sais pas si ça peut vraiment brouiller ton consentement. Mais en effet, c'est vrai que dans la partie rapport sexuel notamment, il pourrait dire, en plus de lubrifiant, etc., fais attention à ce que tout le monde soit consentant. Je regarde si sur une autre drogue, ils le disent. Ouais, non, en fait, ils ont la même base de conseils et ils changent juste un petit truc sur que dit la loi. Par exemple, sur le LSD, sa détention et sa consommation sont interdites. Alors sur le poppers, ils rappelaient juste que la vente est interdite aux mineurs, mais que voilà, le poppers est en vente libre. Donc voilà, je trouve que c'est hyper chouette comme initiative, mais en général, l'espace santé étudiant de Bordeaux fait vraiment un travail de fou que j'aurais beaucoup aimé moi avoir quand j'étais étudiante. Et voilà, donc bravo à l'espace santé étudiante de Bordeaux, que j'embrasse. Et donc ça rebondit sur ce que disait Reddit, sur en fait ça n'a pas de sens de faire des campagnes qui se limitent à ne consommer pas parce que ça va pas marcher. Mais d'un autre côté, faire une campagne qui se limite à buvez un peu d'eau en même temps que vous vous bourrez la gueule, c'est quand même peut-être, il y a un entre-deux quoi. Dernier commentaire sur Reddit qui dit « On attend les viticulteurs de Reddit France venir faire la propagande pour nous parler de leur métier fabuleux, dire que ce sont des petits artisans qui font battre le cœur de la France, qu'ils sous-payent des ouvriers des pays de l'Est pour les vendanges, mais promis, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Puis la pollution des sols, il faut bien, sinon les rendements sont trop bas, vous comprenez ? Et puis eux, c'est du bon alcool, c'est pas pareil. L'alcool coûte plus de 100 milliards par an à la France, mais bon, on exporte pour 17 milliards, alors la balance commerciale, c'est important. À quand un gouvernement qui mènera une vraie politique de santé publique agressive vis-à-vis de l'alcool ? Vu l'article, on va devoir attendre longtemps. Ah, mais on renforce la ligne alcool info service, donc tout va bien, le fameux numéro vert. Est-ce que vous voulez, vous, parce qu'en vrai, je suis un peu en dissociation de, je suis là, genre, probablement que fondamentalement, oui, c'est bien d'aller vers une société où il y a moins d'alcool, où il y a moins d'addiction, et je sais les ravages que font l'alcool. J'ai des gens proches qui ont des problèmes avec l'alcool. J'ai moi-même une histoire pas hyper simple avec l'alcool. Donc, I get it. Et en même temps, je suis là... Des fois, j'aime bien. Donc, j'ai pas envie de vivre dans un monde où je crois que c'est en Suède, non ? Ou en Norvège, ou peut-être les deux. Où il y a un truc où genre tu peux pas acheter l'alcool après une certaine heure. L'alcool se vend que dans certains magasins, un peu comme le tabac. C'est hyper taxé, ça coûte hyper cher. Moi, je suis là et j'ai envie de vivre dans un monde où je peux passer au casino, me prendre une petite bouteille de vin avant de rentrer le soir, quoi. Mais le problème, c'est que c'est aussi ce monde qui fait que si j'ai envie de boire 2 bouteilles de vin par jour, je peux. Donc, Avant d'interdire, commençons par mieux informer les gens, c'est déjà la base. Oui, mais tu vois, en soi, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui sont informés des dangers de l'alcool. C'est un peu comme la clope. Genre, pour moi, il faut qu'il y ait, si on veut vraiment réduire la consommation d'alcool, il faut qu'il y ait, oui, des campagnes de sensibilisation et des obstacles pratiques à acheter et consommer trop d'alcool, parce que sinon ça va pas suffire quoi. L'addiction, c'est quand même un truc, tu vois. Il y avait une proposition de loi, nous dit Krustatz, qui voulait des images sur les bouteilles de vin comme sur les paquets de cigarettes. Il y a trop de Français qui pensent que le pif c'est du jus de raisin. Baf, qui sont-ils, tu vois? Genre, est-ce qu'il y a plein de Français qui pensent que fumer c'est bon pour la santé? Enfin, déglamoriser l'alcool, c'est également nécessaire. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir de ça aussi quoi. Ça peut faire partie du soft power pour un peu comme on fume plus dans les films et tout quoi. En Suède, tu peux pas en acheter hors des magasins spécialisés, mais pour l'avoir vécu, c'est pas grave. Si tu veux fêter un truc, ça marche très bien, mais ça évite d'être tenté par une petite bouteille au casino. Excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse en tant que personne ayant moi-même une étrange relation à la chose. On est ensemble. Est-ce qu'on peut aussi choisir notre mort à un moment donné, à quoi bon vivre jusqu'à 90 ans ? Alors qu'il pue que l'euthanasie et la fin de vie choisie est un autre sujet dont on parlera probablement à l'occasion d'une actu ou une autre sur Reddit. Il faut une meilleure prise en charge des addicts, c'est vrai, et peut-être une meilleure, un meilleur ciblage de c'est quoi l'addiction, parce que pour le coup, autant je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pense que l'alcool c'est genre que bon pour la santé, mais il y a plein de gens qui ne savent pas où ça commence à avoir un problème avec l'alcool, et notamment, en fait, tu n'as pas besoin d'être au PMU à 7 du mat avec ton ballon de rouge pour avoir un problème avec l'alcool. Moi j'ai un problème avec l'alcool, et genre, ça va quoi, je ne suis pas là à teaser avec vous à 11h du mat un lundi quoi. Réduire certaines raisons qui font qu'on boit pour compenser, donc se débarrasser du capitalisme, ainsi que du patriarcat. Et après, on arrête l'alcool. Ça marche, c'est un bon deal. Let's go. L'alcool a un poids trop culturé en France, d'où la difficulté de faire de la prévention comme sur le tabac. Ouais, et déjà, le tabac, c'est compliqué. On est un pays qui fume beaucoup. On est un pays qui est très détendu sur les clopes par rapport à beaucoup de nos voisins. Et c'est encore plus choquant pour des gens qui viennent, qui de Nouvelle-Zélande, qui du Japon, dans des endroits où fumer, c'est soit très cher, soit très restreint, en termes de où est-ce qu'on peut fumer et tout. D'être là à Paris, ta vie c'est 15 sur 15 quoi. T'es vraiment dans la rue, tu es dans une forme de ah bon bah je suis dans le tabagisme passif ou actif très vite quoi. Taxer plus ça me paraît pas idiot, ça freine et effectivement et c'est pour ça que les lobbies vont faire pression contre parce que ça freine donc ça fait moins de ventes. Tous ces gens tombés dans l'alcoolisme plutôt que de voir un psy. Oui, entre autres, clairement, on parlait d'anxiété. Guess what, le Xanax, c'est mieux que boire trop de vin pour gérer son anxiété, car le lendemain, on n'a pas la gueule de bois et on se flingue pas le foie. Quand tu es jeune ado, tu te dis que c'est le maximum du fun d'être ivre et que c'est tellement marrant de raconter l'histoire de machin qui a gerbé à telle soirée, ça devient ridicule, mais ça reste une réalité pour beaucoup. Oui, et je sais pas comment on pourrait entraver ça, tu vois. Je sais pas comment on pourrait avoir un monde où les ados s'y disent « Oh là là, j'ai grave bégère, leurs potes feront. » Mais ça va, mec, c'est chelou de faire ça. Et pas « Oh ouais, grave !» Je sais pas si c'est une passade obligée ou pas d'être un peu con avec la tease, mais c'est clairement un début de spirale potentielle, quoi. Je suis sûrement biaisée par les stages hospitaliers, mais la plupart des patients et même des gens de mon âge, 27 ans, ne sont pas du tout au courant des recommandations. Et bien que ce soit ok d'être en dehors des fameuses recommandations, justement, parfois, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leur consommation qu'ils considèrent comme normale est bien au-dessus de la normale. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'alcool coûte moins cher que le psy. Alors ça dépend de ta conso, mais si tu chopes un psy à genre 50€ de l'heure et que tu le vois une fois par mois, je pense que perso, je dépense plus que 50 balles d'alcool par mois. Donc ça coûte moins cher si t'en consommes tous les jours. Enfin, en fait, tu vas pas voir ton psy tous les jours, mais je pense qu'à long terme, c'est rentable. Et aussi, tu seras en meilleure santé. Et on est ravis. Ou alors, il faut le psy remboursé par la sécu. Tout à fait, ça ferait pas de mal. Et donc, sur Reddit, justement, sur ce débat, quelqu'un dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi », donc avec la personne qui dit « À quand un gouvernement qui mènera une vraie politique de santé publique agressive vis-à-vis de l'alcool ?» Donc quelqu'un lui répond « Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis tiraillée avec le fait de vouloir une société stérile où l'alcool est le mal. C'est nul une vie où on picole pas, où on fume pas, où on fait pas de conneries. Certes, les abus amènent à des vies détruites, mais j'aimerais ne pas vivre dans une société à l'américaine où on nous fait la leçon pour un peu d'alcool, de drogue, de sexe, où dès que tu fumes, t'es un dangereux psychopathe qui souhaite intoxiquer ses voisins. J'aime pas trop ce puritanisme à l'américaine qui traîne par moments sur le sou, donc le sou c'est le subreddit, c'est Air France. » Car en plus, ceux qui généralement prônent ce genre de vie ont de très gros vices cachés, mais ce n'est pas pour autant que je pousse les gens à être bourrés H24 et à faire nimp, j'ai le cul entre deux chaises. Donc quelqu'un répond, sans parler de prohibition, il faut remettre l'église au centre du village, l'alcool est dangereux, et on a un discours complètement schizophrène, en tout cas ambivalent, contradictoire dessus. C'est pas forcément un terme que j'utilise perso. Par ailleurs, le fait que tu pointes une vie sans fumée ou sans alcool comme nulle est assez symptomatique de ces discours à double vitesse. Et quelqu'un dit « Je pense que personne n'est pour la prohibition ». Là, c'est vraiment la question de mener ou non massivement des campagnes de prévention, quel que soit le public. On le fait avec le tabac, avec l'alcool, c'est une autre paire de manches. Faut dire que Macron avait nommé conseillère spéciale Audrey Bourolo, déléguée générale de l'organisation de lobbying de la filière viticole. Macron a vraiment su se mettre la filière dans la poche, ou l'inverse, avec des petites phrases comme « Je bois du vin tous les jours midi et soir »,« Un repas sans vin est un repas triste ». Il a même été jusqu'à dire que le vin n'est pas un alcool avec lequel on s'enivre. Ça, c'est mentir. Ce qui est un gros crachat glaireux au visage des familles endeuillées par le décès d'un proche alcoolique. C'est aussi un des principaux arguments des représentants et lobbyistes de l'industrie viticole. Pourtant, les chiffres sont là. Le vin représente 60% de la consommation d'alcool en France. C'est près de 50 000 morts par an et un coût de 118 milliards d'euros pour la Sécu. Macron s'est aussi farouchement opposé à un durcissement de la loi E20, qui régit la pub autour de l'alcool. L'idée n'est pas d'interdire l'alcool, mais de renforcer drastiquement la prévention, d'interdire la mise en avant à but commercial de l'alcool, etc. Bon, il y a quelqu'un qui dit... Ok, il y a quelqu'un qui dit 80% des ventes sont pour de gros alcooliques qui ont un problème de santé. Par conséquent, s'amuser autour d'un verre, ce n'est pas vraiment ce que permet l'industrie. Autant on a fait un travail de fond pour le tabac, autant sur l'alcool, on est encore à la case départ. Je suis surprise par ce chiffre, mais il y a quelqu'un qui dit une source qui dit que c'est vrai. L'intervention de Michel Reynaud. Qui est Michel Reynaud ? Parce que moi, on me dit bonne source, mais c'est un psychiatre, d'accord. Addictologue, bon, d'accord. Donc, le principe de Pareto, c'est une idée de il y a 20% qui produit 80% des résultats. Par exemple, dans la vie, 20% des efforts qu'on met dans son boulot produisent 80% des résultats du boulot. Et l'idée, c'est de se... Et là, l'idée, ça vient d'un économiste italien qui a montré que 80% des richesses étaient détenues par 20% de la population. Donc, c'est le principe de Pareto, principe des 80-20. Et donc, Michel Reynaud, à l'Assemblée nationale, qui est un addictologue, nous dit... Donc, il fait un petit point sur les dommages liés à l'alcool. Et donc, il dit 70% des cirrhoses, pancréatites, cancer, ORL, donc otorhinolaryngite, sont liés à une consommation d'alcool supérieure à 6 verres par jour, dont 50% pour les consommations supérieures à 10 verres par jour. Cette courbe exponentielle se retrouve pour tous les dommages, coma éthylique, violence, etc. Le plus parlant est de faire le lien entre la mortalité, toutes causes confondues, et la consommation d'alcool. la corrélation exponentielle entre les quantités consommées d'alcool et la mortalité. 33% de la population consomme 90% de l'alcool commercialisé. Bah, du coup, c'est pas ce que disait la personne. Les ventes de l'industrie alcoolière se concentrent à 75% sur les populations ayant un problème avec l'alcool ou des consommations excessives susceptibles d'en engendrer un. Ok. Ok. Donc en fait, en effet, une immense partie des ventes vont à des gens qui ont déjà... Ok. Les alcooliers prétendent prôner une consommation modérée, mais si 80% des Français sont au-dessous du seuil de 3 verres par jour, ce sont les 20% restants qui consomment les 3 quarts des alcools vendus. Le modèle économique des alcooliers est bâti sur des consommations excessives. Donc en vrai, oui. Alors, il sort ça d'où ? Bah, il sort donc de l'intervention d'un addictologue à l'Assemblée nationale qui se base sur des chiffres de l'OMS, de l'OFDT et de Santé publique France. En vrai, ça a l'air legit, hein. Ça a l'air vraiment legit. Et donc la personne dit, comme le risque relatif croît de manière exponentielle en fonction de la consommation journalière, il est donc possible de réduire considérablement la morbimortalité, en se concentrant sur les consommations excessives. Schématiquement, 80% des Français boivent dans des limites acceptables. En revanche, les 20% restants concentrent 80% des dommages, mais aussi 75% des ventes et des bénéfices. Il faut donc réduire et dénormaliser ces consommations excessives, en particulier chez les jeunes. Ok, bah c'est intéressant tout ça. Franchement, ça me surprend ce chiffre, j'aurais pas du tout pensé. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'en effet, du coup, les alcooliers n'ont vraiment pas d'intérêt à réduire les addictions à l'alcool, puisque c'est ce public-là qui fait l'écrasante majorité de leur business. Voilà. Il y a The Warrior Inside sur le chat qui nous dit « J'ai l'impression qu'en plus c'est un fait qu'il y a des gens qui se côtoient juste pour picoler. C'est normal de vouloir se sentir aimé et entouré, mais quitte à faire autant réduire son cercle d'amis pour se sentir vraiment aimé. » Ouais, c'est vrai, la qualité sur la quantité. Et après, oui, il y a aussi beaucoup de gens dont la socialisation passe par picoler. C'est intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des gens que tu vois que en picolant ? Genre mes meilleurs amis, en vrai, c'est rare qu'on se voit sans picoler, mais ça arrive, parce que des fois on se voit le matin, le midi, on prend la route et tout. Mais en vrai, les trois quarts des fois, quand on se voit, on a un verre d'alcool, quoi. Et c'est pas inintéressant comme sujet. Et qui pue que nous rappelle, de toute façon, les lois ne sont pas respectées. J'ai acheté ma tise à 14 ans au carrefour du coin et on m'a jamais demandé ma carte d'identité. Carrément, ça et la clope, bon. C'est encore large, mais parce que ça, on en revient. Le problème, c'est le capitalisme. Tout comme les alcooliers font leur chiffre d'affaires sur des gens qui ont une consommation excessive, les supérettes, etc., font leur chiffre d'affaires aussi. Enfin, ils perdent de l'argent s'ils t'interdisent d'acheter l'alcool, parce qu'à la fin, c'est une bouteille achetée. Donc le risque de l'amende de vendre de l'alcool à des mineurs est probablement compensé par le bénéfice à vendre de l'alcool à des mineurs. Le capitalisme n'a pas d'éthique, sachez-le. Là, on parle de la mortalité due aux problèmes de santé qu'engendre la consommation d'alcool, pas des dégâts collatéraux comme les accidents, etc. Je sais pas si c'est compté dans la mortalité liée à l'alcool, Sherpa. Genre les gens qui font un accident parce qu'ils sont bourrés. Je ne sais pas. Et Krustat nous dit « J'ai arrêté d'aller aux soirées, on fait que des jeux à boire à 30 ans. » Ouais. Ça m'a surprise déjà que ça ait duré aussi longtemps parce que, pour le coup, c'est assez rare dans mon entourage. Mais par contre, on est sur pas mal de consommation d'alcool, on va pas se mentir. Ok, on va passer à l'infiltration du point chez les woke. Pour rappel, le point est un média plutôt à droite. Oh non, l'article est sous paywall, on va pas pouvoir lire en entier. Mais donc c'est cette Zumba totale où une chroniqueuse du point, qui s'appelle Nora Bussigny, a publié les nouveaux inquisiteurs. C'est l'inquisition, d'accord ? Enquête dans une France qui, au nom du droit à la différence, bascule souvent dans le rejet sectaire. Je pense que l'article est dans les coms. Putain, il y a une vidéo. Vidéo sponsorisée par les produits laitiers. Alors, je pense... Est-ce qu'on a droit aux photos ? Ah non, on n'a pas la suite. Ok, bon, on va aller voir dans les coms parce que... Donc, c'est la journaliste. Et vous allez voir qu'elle s'est grimée en woke. Un déguisement, ma foi, impossible à percer, quoi. Est-ce qu'on a tout l'article dans les coms ? Alors non, mais on a un bon long extrait, donc je vais peut-être vous lire ça. Est-ce que je regarde vite fait ? Extrait long de l'article du point « Infiltration chez les woke ».
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Loin des essais théoriques sur ce phénomène qui séduit de nombreux natifs de la génération Z, Nora Bussigny, alias Noli, nous emmène au cœur du wokisme. À travers des groupes de parole, des collectifs, des manifestations ou des cours à l'université qu'elle a infiltrés, la journaliste nous fait découvrir l'envers du décor. Derrière les discours égalitaristes et inclusifs, on n'hésite pas à exclure, parfois violemment et sans motif légitime, les hommes surtout, cisgenres de préférence, cisgenre est entre guillemets, ou les blancs. Blanc n'est pas entre guillemets. On hiérarchise les êtres humains selon leur couleur de peau et leur statut d'opprimé. On s'écharpe sur des concepts identitaires avant que ne triomphent les petits égoïsmes et les grandes contradictions. Note personnelle de Reddit, du coup, du redditeur, pas de Le Point. Ce que Le Point a publié est un long extrait du livre « Les nouveaux inquisiteurs » de Nora Bussigny. Cela se concentre sur le fait d'être une militante et bénévole lors de la Pride radicale de 2022. Contrairement à la façon dont cela est présenté, et à part quelques pics par-ci par-là, cela donne un portrait de militant voulant bien faire, de bonne volonté. Le négatif n'est pas sur les personnes, il serait plutôt dans le fait d'être dépassé lors de l'application de la théorie et des principes. Ok, on revient à l'article du Point, avec les « racisés » entre guillemets, à la Pride radicale. Côté tri-sélectif, les binômes racisés devront prioriser les cortèges non mixtes. À la suite du débat houleux de la semaine passée, il a finalement été décidé que les blancs ne pourront pas faire partie du service d'ordre encadrant les cortèges non mixtes. Je dénombre à peine 10 personnes racisées prêtes à encadrer les cortèges, ce qui n'est pas pour me rassurer. Le passage de 5 camions de CRS interrompt mes élucubrations. Pour la première fois, j'ai peur des forces de l'ordre. Bah alors Nora ? Je repense aux propos de militants antiracistes. Les blancs ne savent pas ce que c'est que d'avoir peur devant des policiers ou des CRS. Je ne sais pas si cette peur est conditionnée par les heures passées à la formation autour de la question des violences policières, mais comme je suis pour une fois aux premières loges, je me promets d'être aujourd'hui la plus objective possible. La go, elle a eu 10 minutes de « Ok, c'est quoi les bails avec les violences policières ?» Elle est là « Quoi ? Maintenant, j'ai peur des flics. Est-ce que j'ai été brainwashed ?» Je suis là « Bah, maybe tu regardes pas les infos, frère. Enfin, quoi ?» Ok. Les binômes ne doivent jamais se séparer, même pour aller aux toilettes, nous rappelle Nox d'un temps ferme. Avec Alice, nous rejoignons le cortège des racisés, alors que le coup d'envoi du départ doit être bientôt lancé. J'entends des bribes de conversation parmi les personnes présentes. Enfin des gens comme nous, où l'année dernière, la mixité n'était pas aussi établie. Alors que l'équipe de la Pride Radical s'affaire autour des micros, des enceintes et des chars afin d'entamer les discours, je propose à Alice de commencer à maintenir la non-mixité du cortège des non-racisés, autrement dit, éloigner les blancs. Ok. Je tente une approche vers un groupe de personnes noires et métisses, parmi lesquelles figurent deux jeunes roux à la peau ivoire, et m'éclaircis la voix avant d'interrompre leur conversation, témoignant de leur hâte et de leur joie de participer à l'événement. Désolée, mais cette partie du cortège est réservée aux personnes racisées uniquement. Donc là, vous pouvez rester, mais quand ça va démarrer, il faudra aller derrière, dans le cortège mixte, m'interrompt Alice, complétant mes propos. Le groupe se regarde, mais personne ne bronche, excepté le jeune garçon roux affublé d'un drapeau LGBT et cramponné à sa bière. « Mais je sais pas si je suis racisée, moi, ça veut dire quoi ?» nous demande-t-il perplexe. Je repense à la manière dont les militants commentent et répondent dans les groupes Facebook que j'ai réussi à rejoindre. J'aime bien comme elle dit « j'ai réussi » en mode « c'était dur, non ? C'est des groupes Facebook, frère ?» et trouve la réponse parfaite. « As-tu déjà vécu du racisme ? Sinon, cela veut dire que tu n'es pas une personne racisée et cet espace est un lieu safe en non-mixité. » Alice me regarde avec approbation et opine du chef. « Pardon, vous avez raison, désolé pour lui, on s'en va. » s'empresse de s'excuser son ami, l'entraînant avec elle en baissant les yeux. Nous continuons à aborder les groupes dont la docilité me déconcerte. Je guette chaque grimace indignée ou mouboudeuse, mais la soumission des personnes blanches est immédiate. Frère, pourquoi voir de la soumission là où tu peux juste voir du respect des règles, déjà, et de... C'est une pride radicale, il y a des cortèges mixtes, il y a des cortèges non mixtes. Elle a pas dit barrez-vous, elle a dit si vous voulez être ensemble, vous allez dans l'autre cortège. La soumission des personnes blanches est immédiate. Je vais titrer ce podcast « La soumission des personnes blanches ». On a un retard monstre parce que chaque asso fait des discours et qu'on a du mal à imposer la non-mixité des cortèges, nous confie Nuage, occupé à regarder Iris discuter avec deux patrouilles de police arrêtées le long du boulevard. J'ose lui demander si les policiers empêchent le lancement de la manifestation sans m'attendre le moins du monde à la teneur de sa réponse. Non, mais le problème, c'est qu'on peut pas leur dire qu'on doit demander aux blancs d'aller ailleurs. On est obligé de leur mentir parce que c'est illégal de refuser des blancs à cause de la loi sur le séparatisme. Je scrute les visages d'Alice et des autres présents, attendant de voir si l'un d'eux semble choqué, mais tous opinent du chef, à ma grande surprise, sans broncher. putain, j'en ai marre. Le flirt, front de libération transfemme. Donc transfemme, ça veut dire transféminine. C'est souvent un mot qui est utilisé pour parler des femmes trans. Donc c'est des femmes qui sont nées dans un corps qui a été assigné au genre masculin à la base. Mais en fait non, c'était des femmes. Et qui du coup, pour beaucoup, entament une démarche de transition qui peut être hormonale, opératoire ou simplement sociale. Via les vêtements, via l'attitude et puis via les pronoms, etc. qu'on utilise. Donc le flirt, front de libération transfemme, avait exigé une non-mixité trans, j'avais cousu des drapeaux, briefé tout le monde et maintenant ils ont changé d'avis, tout le monde a le droit de participer au cortège et en plus eux aussi veulent faire leur discours maintenant, ça risque pas de démarrer. Tempête Iris en nous rejoignant tous. Impossible à calmer malgré nos tentatives, elle semble écœurée que le cortège des transgenres soit finalement autorisé aux personnes cis. Wow, on n'a pas de guillemets autour de cis cette fois-ci. Mais c'est après, je rigole un peu de la galère d'organisation parce que pour le coup... J'avoue, les événements où il y a 1000 groupes qui ont 1000 critères et tout, c'est compliqué. Enfin ouais, c'est en retard quoi, mais c'est pas très grave. Si dans les premiers temps, les manifestants blancs obéissent et s'écartent en s'excusant, je remarque que plus ils sont alcoolisés, moins la tâche s'avère facile. On en revient à l'alcool. Avec Alice qui rechigne à me voir m'éloigner ne serait-ce que de quelques mètres, nous éprouvons beaucoup de difficultés à repousser les blancs, attirés comme des mouches par l'ambiance. Hey, « Hé, toi ! Oui, c'est à toi que je parle !» Je me retourne et je vois foncer vers moi un homme, âgé d'une petite quarantaine d'années, furieux. Il paraît que c'est toi qui as demandé à mon compagnon et à mes amis de partir parce qu'ils sont blancs, c'est vrai ? Je déglutis et tente de faire taire ma fâcheuse tendance à l'impulsivité pour lui répondre d'une voix assurée que je ne fais qu'obéir aux consignes de la Pride radicale et des associations. Mais j'en ai rien à foutre, tu te rends compte ? C'est horrible ce que tu fais. On est un couple gay, on est avec nos amis, on est heureux et fiers de défiler main dans la main avec eux et toi tu nous sépares parce qu'ils sont blancs. En repensant aujourd'hui à cette scène, je ne peux m'empêcher de déplorer cette facilité avec laquelle j'ai pu devenir cette autre personne. Comment la journaliste en immersion, prête à montrer toutes les contradictions et violences de cette frange du progressisme, a pu devenir aussi vite ce bon petit soldat, frustré d'être contredit pendant qu'il fait régner l'ordre pour le plus grand bien ? Eh, 1984 ou pas ? Ne suis-je pas là au cœur du questionnement que tente de poser ce livre ? Par quel lavage de cerveau, mécanique d'acquiescement, effet d'emprise, ai-je soudain pu devenir cet automate, prêt à faire partie d'un système qui divise au lieu de rassembler ? Frère, tu t'es infiltré dans la Pride. Ton compagnon et tes amis ont tout à fait le droit de défiler dans d'autres cortèges mixtes. Ici, ce sont uniquement les personnes racisées, ce qui n'est pas leur cas, donc ils doivent partir. Mais toi, je te défends de dire que je suis racisée parce que je suis arabe. C'est contre-productif ce que vous faites. Si c'est ça, le vivre ensemble, je trouve ça odieux. Tu nous empêcheras pas de marcher où on veut, on est dans la rue. Peu à l'aise, j'en profite pour interroger avec précaution une des membres du staff, visiblement arabe, qui me rassure non sans humour. T'inquiète, les Algériens et les Arabes peuvent intégrer sans problème le cortège des personnes noires et afro-caribéennes, c'est toujours mieux que des blancs, s'esclave-t-elle en me faisant un clin d'œil, tandis que Pierrette s'entête à avancer, sans tenir compte des plaintes des uns et des autres. 18h, le retard pris par les cortèges ne me permet pas de rejoindre la place de la République où un after attend les militants. Alors qu'aucune altercation avec les policiers qui nous ont au contraire aidés à sécuriser le périmètre n'a été recensée, j'entends scander en chœur par la foule « Tout le monde déteste la police », accompagné d'éclats de rire juste sous le nez des forces de l'ordre impassibles. Oh, les pauvres flics. Oui, il y a Momo. Attendez, est-ce que je peux vous montrer Momo ? Ah bah, elle vient. Mais elle va me mordre si je vous la montre. La queue. Épuisée, je prends congé d'Alice, qui semble elle aussi morte de fatigue, après cette plainte une fois de plus de la mauvaise organisation des cortèges, et rejoins Wael et Leïla pour filer sans demander notre reste. Leïla, c'est peut-être la meuf visiblement arabe, du coup. Survoltée, mes deux comparses ont beaucoup de choses à me raconter. On s'est fait dégager du cortège des afro-descendants parce qu'on n'était pas noirs. Quand Leïla leur a dit que le Maghreb était en Afrique, on s'est entendu rétorquer que l'enjeu était plus important avant de nous forcer à aller dans le cortège des racisés. Pourtant racisés, mes deux amis m'avouent être atterrés par le comportement des militants. Pour meilleure preuve, le flot d'anecdotes, tout ce qui est pour preuve anecdote, c'est bien. Emmagasiné depuis le début de la manif, à commencer par celle-ci. Entre tous les chants anti-flics et les Macron extorsions d'émissions, on avait une nana de l'organisation qui hurlait « Ici c'est pour les racisés, les blancs ça dégage ». Mais pour Leïla, la scène la plus choquante restera celle de cette vieille dame qui nous regardait passer en souriant. Non pour se moquer mais parce qu'elle trouvait beau tout ce joyeux bordel et à laquelle un type noir a jeté à la figure « Ah on te fait rire, sale vieille blanche de merde ». Oh là là, qu'est-ce qu'on n'en pense. Donc, si vous ne savez pas, la Pride radicale, c'est un événement qui a lieu dans divers villes, qui n'est pas la marche des fiertés, donc la Pride plus grand public telle qu'on l'entend. La Pride radicale, c'est une Pride alternative qui vise à repolitiser la marche des fiertés et les questions LGBT+, en mettant notamment l'accent sur l'intersection des luttes, à savoir, y compris la misogynie noire, qui peut être la misogynie que vivent les femmes noires, mais aussi les femmes noires lesbiennes, par exemple, Et en faisant, voilà, il y a des cortèges en non-mixité, que ce soit des cortèges en non-mixité trans, en non-mixité de personnes racisées. Et la non-mixité en tant qu'outil militant, si vous ne connaissez pas, l'intérêt, c'est de déjà visibiliser les groupes, de montrer, parce que si tu as des personnes qui sont isolées, éparpillées au milieu d'une foule majoritairement blanche, par exemple, elles sont moins visibles que si elles sont rassemblées. Et rappelons que ça reste pour celles et ceux qui veulent. Tout le monde peut aller dans le cortège mixte, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que tu es noir qu'on va te mettre dans le cortège des noirs. Mais si tu veux être dans un cortège en non-mixité, bah, la Pride radicale le propose. Je ne sais pas si la Pride classique, oui. J'ai pas été cette année, toi, Krustad, si tu y étais, je sais pas comment ça se passe. Et ça permet aussi d'avoir en fait des dynamiques différentes dans des groupes de parole notamment. En fait, on ne parle pas pareil entre personnes concernées par la même oppression, discrimination, et entre un groupe mixte, entre des personnes qui sont concernées et des personnes qui ne sont pas concernées. Ça peut demander, quand il y a une mixité, des efforts de pédagogie supplémentaires où il faut reprendre les bases, où il faut leur expliquer notre vécu, etc. La non-mixité, c'est pas vraiment une volonté de société, de modèle de société à la fin, bien sûr. Il n'y a pas grand monde, en tout cas dans le féminisme et l'égalitarisme qui me ressemble, qui vote pour un retour de la ségrégation genrée et encore moins raciale. C'est ponctuellement, à des moments, c'est utile et c'est toujours sur la base du volontariat. Si tu veux aller dans un truc mixte, si tu veux parler féminisme avec des mecs, littéralement, vas-y. Juste, il y a des espaces qui sont ponctuellement ou de façon permanente non mixtes. Voilà. Oui, et après, comme dit Krustad, il existe des gens radicaux dans tous les camps, et surtout, il existe des cons dans tous les camps. Si la dernière anecdote, donc, sur le mec qui insulte une meuf est vraie, peut-être que le mec est bourré, peut-être qu'il est juste intolérant. En revanche, la meuf est déjà biaisée dans son enquête, puisqu'elle y va comme un safari, et non pas pour apprendre et en savoir plus, ce qui biaise le résultat. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle dit elle-même, quand elle dit qu'elle est devenue, voilà, elle était prête à montrer toutes les contradictions et violences de cette frange du progressisme. Donc elle part déjà, et alors pour le coup c'est en journalisme, tu pars avec un angle, mais quand tu fais une enquête en immersion, tu dois aussi être prêt et prête à avoir tort et à changer d'avis personnel en tout cas, et à peut-être revoir ton angle pour être dans l'honnêteté intellectuelle. Mais elle avait clairement, oui, et j'en ai chez le point, elle avait clairement une idée reçue sur comment ça va se passer. Ok, je vais lire un peu vos commentaires. Mon Dieu, ces groupes qui veulent des droits pour tous, vraiment, quelle décadence, on est d'accord. Je pense à tous les collectifs et les assos qui doivent se sentir bafoués d'avoir quelqu'un qui littéralement s'infiltre comme un flic dans un cartel. Oui, c'est intéressant. Après, l'enquête en immersion, c'est un format journalistique et on en avait parlé lundi dernier parce qu'on avait parlé de la police. Il y avait un journaliste, par exemple, qui s'était infiltré, qui avait sorti un livre qui s'appelle Flic, qui s'était infiltré dans la police. C'était sorti il y a 2-3 ans, ça avait pas mal parlé. On a Florence Obna qui s'est infiltrée parmi des femmes de ménage sur des bateaux à Ouistreham, etc. Donc, en vrai, la démarche existe de s'infiltrer pour voir et rendre compte de comment ça se passe. Après, je suis d'accord que ça pose un peu question. Là, on est sur un métier, sur une des démarches où on est face à des populations potentiellement vulnérables, discriminées, etc. Il peut y avoir un problème de confiance derrière, comment on sait que la prochaine meuf blanche un peu chelou qui arrive, elle est là par bonne volonté et parce qu'elle a des valeurs communes avec nous, ou elle est pas là pour se faire mousser en mode enquête, quoi. En effet, Clova note que les blancs sont sans guillemets, alors que les racisés et les cisgenres sont parfois avec des guillemets, parfois pas. On n'est pas en harmonie sur le point, on n'est pas sûr de ça, quoi. Ah bah tiens, quand on n'est plus en full privilège, on a peur. Oui, parce qu'elle se met à avoir peur des flics quand les gens lui racontent les exactions que les flics peuvent faire peser, notamment sur des populations minorisées, donc des populations racisées, des femmes, des populations LGBTQ, etc. Donc, en effet, elle avait plus peur des flics à la Pride radicale que quand elle est petite meuf blanche sans perruque rose dans la rue qui va pas à la Pride radicale anyway, quoi. Ces angles morts de privilégiés, un peu... Elle se crée des traumatismes. C'est vrai qu'elle se crée des traumatismes. Il s'est pas passé grand-chose, quoi. Les policiers qui aident à sécuriser, c'est sûr, c'est fake. Peut-être, peut-être pas. On va pas dire qu'elle ment. C'est pas notre place de dire qu'elle ment. Salut Agathe! Je suis complètement en accord avec la non-mixité choisie, mais je me demande concrètement comment ils gèrent les personnes qui ont un white et ou cis-passing. Ça peut donner lieu à des contrôles vraiment absurdes. Oui, je suis d'accord, ça fait partie de la problématique. Et c'est une question qu'on avait eue sur Mademoiselle, puisque sur le forum Mademoiselle, historiquement, il est non-mixte. Donc, à la base, il était juste non-mixte, genre ouvert que aux meufs. Et en fait, tu t'inscris, tu dis homme ou femme. Si tu dis homme, on ne valide pas, voilà, tout simplement. Sauf que le monde a changé, le forum a grandi, l'ampleur du site aussi. Et c'est posé la question de est-ce qu'on est ouvert qu'aux femmes. Il y a des personnes qui s'étaient inscrites à l'époque en tant que femmes et qui, entre-temps, s'étaient rendues compte qu'elles n'étaient pas des femmes et qui, du coup, bah, étaient maintenant des hommes. On avait des personnes non-binaires, on avait des hommes non-hétéros, on avait donc des hommes pas cisgenres, on avait des femmes trans, etc. Et au final, du coup, on a recalibré un petit peu, hein, c'est un forum fermé aux hommes cisgenres. Y compris s'ils sont homosexuels d'ailleurs, parce que ça n'empêche pas vraiment leur vécu. Et c'était voilà, une décision, je dirais, qu'on a prise de façon assez conjointe avec les lectrices, mais ça pose parfois des soucis de si la personne... Parce qu'on était aussi dans une démarche de protection des lectrices et de l'équipe, puisqu'on était souvent victimes de raids haineux, notamment de jeuxvideo.com and shit, là, 18-25. Et du coup, parfois, il y avait des petits malins qui se disaient « Ah, ben, bah, j'ai qu'à cocher femme et elles vont m'accepter. » Mais leur adresse mail, c'était jeandupont@gmail.com. Donc j'étais là « Bah, Jean, c'est pas trop un prénom de meuf. » Et en même temps, ça peut complètement être son prénom d'une personne qui a transitionné, ou peut-être que c'est Jean, comme Norma Jean Baker. Donc voilà, c'est pas toujours une science exacte. Je crois que c'était possible, et ça doit toujours l'être, de faire une réclamation quand tu es pas accepté, ou d'envoyer un mail pour dire ouais, pourquoi. Et donc ça m'est arrivé de rectifier des trucs. Mais oui, la non-mixité pose parfois des délicatesses, on va dire. Mais tu vois, par exemple, pour moi, je suis marocaine, je suis métisse, je suis vraiment à moitié marocaine, mais je me considère pas comme racisée. Parce que ça se voit vraiment pas trop que je suis arabe. Donc je dirais pas que j'ai subi le racisme. Et je pense pas être discriminée en France, par rapport au fait que j'ai une ascendance arabe, parce que ça ne se voit pas. Mes sœurs sont beaucoup plus typées que moi. Mes sœurs ont des cheveux beaucoup plus sombres, avec des boucles, elles ont des yeux plus sombres, elles ont plus l'air arabe, elles ont aussi un prénom qui est plus connoté arabe. Myriam, en vrai, c'est beaucoup utilisé aussi dans la culture juive, c'est assez répandu, en fait, Myriam comme prénom, parce que ça vient de la Vierge Marie, tout ça. Donc voilà, c'est moins typé arabe. Donc souvent, les gens, ils sentent que je suis genre méditerranéenne, mais voilà, j'ai eu espagnol, grec, malte, chypriote, italienne, et parfois maghrébine. Mais du coup, et j'ai un nom alsacien parce que j'ai le nom de mon père, donc la France. Donc je pense pas être racisée, mais je pense que mes sœurs sont racisées, paradoxalement. Ma mère, elle est, c'est sûr, puisqu'elle est arabe et elle vient de France, mais en fait elle est pas racisée au Maroc, parce qu'au Maroc c'est l'ethnie principale, tu vois, alors qu'au Maroc il y a du racisme envers les personnes noires, il y en a pas mal. Donc c'est aussi selon le contexte. Mais du coup, moi, j'irais pas dans un truc en non-mixité pour personnes racisées. Par contre, j'irais peut-être dans un truc qui parle d'expérience de vie métisse, parce que là, oui, j'ai une double culture, j'ai une expérience de vie de personne métisse, et ça, c'est une vraie différence par rapport à l'expérience de vie de la majorité des Français de souche de deux parents français. Et du coup, bah, si je voyais un truc non mixité personne racisée, bah, j'irais pas. Si je voyais un truc non mixité personne métisse, bah, là j'irais, tu vois, parce que métisse, pour moi, c'est juste tu viens de deux pays, quoi, ou double culture ou des choses comme ça. Et du coup, bah, c'est aussi, enfin, tu vois, une personne qui va dans un cortège, en fait, c'est un peu la phobie de oui, mais si tout le monde peut dire je suis une femme, les hommes ils vont aller dans les toilettes des femmes. Je suis là, déjà les mecs chelous ils vont dans les toilettes des femmes, hein, c'est, ils voient pas le signe sur la porte en mode oh non, je n'ai pas le droit, je ne savais pas. Et en fait, c'est des cas hyper rares, genre ok, t'as un cortège non mixte, femme trans, et t'as un gars, en tout cas une personne qui a l'air d'être un gars qui arrive et qui dit moi je veux faire partie du cortège. On lui dit bah écoute, c'est pour les femmes trans, et il dit bah je suis une femme trans. Bah, j'ai pas encore transitionné. Bah, en fait, je pense que les personnes qui gèrent ça, elles sont formées, justement, comme cette journaliste du Point, à encadrer la Pride, à encadrer ce genre de cortège, à lui poser quelques questions, à discuter avec la personne, et à voir si cette personne a l'air de poser un danger pour les autres ou pas, quoi. C'est pas une science exacte, mais c'est des... En fait, c'est pas des prises de tête qui arrivent si souvent, parce que la plupart des gens sont de bonne foi et de bonne volonté. Et tout comme si demain, je passe devant un truc qui dit « Assemblée réservée aux parents d'élèves », je vais pas me dire « Ah ouais ?» Dans un pays libre, bah moi je vais venir, même si j'ai pas d'enfants et qu'aucun va dans votre école. Ok ? Il y a quoi, Jean Moulin ? Pourquoi faire ça ? I don't know. Isaline nous dit « Ce qui me marque, c'est qu'elle ne comprend pas que même au sein de la commune LGBTQ+, il y a des désaccords, du racisme, etc. » Bien sûr. D'où par exemple la naissance des ballrooms aux US. Googlez, si vous... je vais pas vous faire un topo sur les ballrooms, j'ai pas le niveau, mais googlez, c'est intéressant. Elle ne voit pas qu'ils essayent de faire en sorte que le maximum de personnes se sentent bien en sécurité. Et si la marche radicale existe, c'est que la Pride officielle est de plus en plus très blanche et que du coup, il y a moins de représentation des combats et revendications de chacun. Oui, c'est aussi le but de la Pride radicale, justement, de visibiliser et de donner des alternatives à la marche des fiertés classique. Et encore une fois, il n'y a rien qui empêche ce couple entre un homme noir et un homme blanc, ou un homme arabe et un homme blanc, de défiler à la Pride radicale. Juste pas dans le cortège en non-mixité, quoi. Ah oui, on n'a pas défini le terme, c'est vrai, merci faille spatio-temporelle. Donc le white passing, c'est, je ne sais pas si je l'ai utilisé ou si c'était juste dans le chat, mais le white passing, c'est un terme qui définit le fait de, en gros, de passer pour blanc, de ça se voit pas extérieurement que t'es racisé, bah comme moi du coup. Genre quand on me voit, on ne comprend pas forcément que je suis arabe. Quand on m'entend parler, on ne comprend pas forcément que je suis arabe, et quand on lit mon nom, on ne comprend pas forcément que je suis arabe. Quand on vient manger ma cuisine, on comprend que je suis probablement arabe car il y en a trop et il y a beaucoup d'épices. Mais voilà, c'est ça white passing. C'est une personne qui est racisée mais qui ne vit pas forcément le même racisme que d'autres parce que ça ne se voit pas au premier abord. Cette journaliste nous dit Denis Denis, bonjour Denis. Bonjour Denis. Et reporter chez Factuel, le média fondé par Christine Kelly, la dame qui s'est laissée piloter par Dieu pour donner la parole à Zemmour. Oh là là, quelle vie! Quelle vie! Au sujet du métissage marocain-alsacien, as-tu lu l'avis des eaux de Leïla Slimani? Non, mais ma sœur me l'a chaudement recommandé, donc c'est sur ma liste. Par contre, j'ai lu Illégitime de Nesrin Slaoui, qui est vraiment très cool, et où elle parle plutôt du rapport qu'on peut entretenir avec sa culture arabe, et notamment de la honte qu'on peut ressentir, quand on est jeune notamment, à être à moitié marocaine, comme elle et moi. Elle est 100%, je crois que ses deux parents sont marocains. Mais elle a grandi en France comme moi. Donc, alors, Illégitime, c'est en partie sur le sujet des transfuges de classe, puisque Nesrin Slaoui, elle a fait Sciences Po, etc., alors qu'elle a des parents plutôt classe ouvrière et donc immigrés marocains. Et du coup, elle s'est élevée au-dessus de ça, enfin, elle a changé de classe sociale. Mais voilà, elle parle aussi de la honte qui vient avec, le fait d'être à moitié marocaine, ce qui n'est pas la même chose que d'être, par exemple, à moitié anglaise, ou à moitié espagnole, ou à moitié allemande. C'est pas une identité culturelle qui est reconnue de la même façon et qui est respectée de la même façon en France, d'où le racisme, entre autres. Et je sais que moi, quand j'étais petite, il y avait des fois où j'avais honte de ma partie marocaine. J'avais honte que chez moi, ça parle arabe hyper fort au téléphone. J'avais honte de pas manger pareil que les autres gamins, parce que j'avais des keftas et des machins comme ça, et pas genre un steak haché. J'avais honte qu'on passe tous nos étés au bled alors que les autres ils allaient au camping et en colo et tout. Et c'est des sentiments contradictoires, mais ambivalents, et dont je pense que j'avais peur de m'y confronter parce que j'adore ma famille et j'adore ma mère et genre j'ai pas de raison d'avoir honte, mais du coup j'avais honte d'avoir eu honte. Et en fait, je trouve que le bouquin de Nesrin Slaoui, il est vraiment cool pour comprendre que cette honte, un peu comme la misogynie intériorisée que j'ai pu ressentir où à des moments j'étais là, les filles c'est nul. Bah, en fait, quand j'ai pensé qu'être arabe c'est nul, c'est parce que je vis dans un pays qui me fait croire que être arabe c'est nul. C'est parce que les gens ils critiquent ta bouffe, ils disent ah c'est bizarre. Ils te traitent de mots négatifs ou ils traitent négativement ta famille. C'est parce que les gens, ils parlent arabe pour de faux pour se moquer. C'est parce que les gens, ils trouvent ça chelou, les trucs que tu fais pas comme tout le monde et le fait que tu manges avec les mains. Et que voilà, il y a plein de trucs qui sont pas respectueux envers les cultures arabes et la culture marocaine notamment, qui du coup m'ont fait croire que c'était pas cool d'être arabe, alors que genre c'est banger de fou. Have you met la culture marocaine? Genre il y a un milliard d'histoires, de trucs, d'art, de machins. Pas la cuisine, allô. Le pays est magnifique, etc. Enfin... il n'y a vraiment pas de raison, mais si j'avais été britannique, je ne dis pas qu'on ne m'aurait pas fait des vannes en mode les roast beef et tout, la reine d'Angleterre, mais je pense que la culture anglaise, par exemple, est beaucoup plus respectée, parce que c'est une culture blanche en France que la culture arabe ou marocaine. Donc voilà, c'est vachement cool. Illégitime de Nesrin Slaoui, et Crushstats recommande le podcast Double Idée, qui est effectivement très cool, auquel j'ai participé. Est-ce que j'étais la première? Maybe la première invitée. Comme nous existons, de Kaoutar Archi évoque également ces sujets. C'est un très beau livre qui se passe en Alsace également. Ok. Bon, écoutez, on a bien parlé, mais on n'a pas beaucoup lu Reddit. Donc, on a lu le grand extrait de l'article. Ça fait des vannes, hein, c'est Reddit. Évidemment, ça ironise sur les roues, blablabla. Il n'y avait pas de roussisme, tout ça. Alors, on a quelqu'un qui dit « Perso, je suis dans des milieux très woke, genre antifa, écologie radicale, antiracisme, tout ça, et je n'ai jamais vécu ce genre de scène. Je suis un mec cisgenre, blanc et hétéro, et on m'a jamais dit de bouger à cause de ça. Par contre, en manif, on m'a déjà demandé de bouger car j'étais au niveau du cortège de tel parti ou tel syndicat et que j'en faisais pas partie. En vrai, c'est pareil, wesh. Après, il y a aussi les cortèges féministes où la première ligne est réservée aux femmes, mais c'est normal, et c'est juste la première ligne. Il y a des mecs juste derrière. On en revient à « Vous n'êtes pas banni de l'événement, juste... » Il y a certains endroits qui sont non mixtes. Ils ont OK, quoi. Il y a quelqu'un qui... C'est intéressant. Il y a quelqu'un qui dit c'est drôle comment tous les woke nient que ça se passe comme ça, mais que toute personne qui infiltre leur mouvement rapporte que c'est précisément ce qui arrive et que les têtes dirigeantes savent que c'est mal et que ça doit être fait furtivement. Et quelqu'un répond, c'est peut-être que les personnes qui infiltrent ces mouvements cherchent absolument à avoir ce genre de scène et vont donc aller dans les espaces où ils et elles savent que ça se passe comme ça. Mais ça représente une toute petite partie de ce qui est qualifié de woke. Mais oui, tous ces gens qui rêvent d'aller en cortège non mixte, etc., j'ai déjà envie de leur dire, mais impliquez-vous dans des assos et des mouvements antiracistes, féministes, etc. Si vous voulez tant aller dans des cortèges non mixtes, en non-mixité féminine et féministe, c'est bien que ça vous intéresse le féminisme. Du coup, vous faites quoi? Pourquoi vous y allez pas? Oh, c'est dommage. parce que franchement, il y a plein d'endroits où on peut militer qui ne sont pas non mixtes. Quelqu'un dit « J'ai participé à deux prides radicales, je ne sais pas s'il y en a eu plus, et je ne savais même pas qu'il y avait des cortèges non mixtes, ou alors quelques-uns à l'avant, mais les groupes étaient vraiment petits par rapport à la masse de gens mélangés à l'arrière. Je n'ai pas de problème avec les réunions ou cortèges en non-mixité, ça peut être utile, et on parle bien d'une pride radicale, pas étonnant qu'il y ait de quoi froisser l'extrême droite. » C'est trop Bernard de la Villardière Corps, de fou. Et quelqu'un dit, le cortège de textes en non-mixité, ça m'étonnerait pas, c'est plutôt cohérent avec les revendications de la Pride radicale. Et la personne répond, oui voilà, je dirais que c'était même pas un cinquième de toute la Pride. En tout cas, ils ont raison, ça a pris beaucoup de retard avec les discours de chacun. En effet, le retard de la Pride, par contre, est journalistiquement sourcé. Et c'est pas très surprenant hein, qu'un événement de cette ampleur soit en retard. Ok, on a un long commentaire qui dit, ok alors, vu que cet extrait a l'air de dire qu'il y aurait un « racisme anti-blanc » entre guillemets, car le racisme anti-blanc n'existe pas dans ces manifestations, ou alors que franchement il y a des associations radicales qui sont vraiment trop radicales au point d'en être contradictoires, je vais donner un peu de contexte. Je répète, je vais donner du contexte de ces décisions, il ne s'agit pas de dire que ces décisions sont bonnes, mais d'expliquer pourquoi elles sont prises. Il s'agit de deux choses bien différentes. Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. Être LGBT n'empêche pas d'être un connard, être noir n'empêche pas d'être un connard, être blanc n'empêche pas d'être un connard. La connarditude, ce n'est pas une question d'identité, de couleur de peau ou de dextrie. Une fois cette porte ouverte enfoncée, on se rend facilement compte d'un truc, c'est possible d'être LGBT et raciste, ce n'est pas contradictoire. En conséquence, ça arrive d'avoir des personnes qui émettent des remarques racistes pendant les prides et autres défilés du même type. Surtout avec une montée des tensions sur l'immigration de ces dernières années, on peut facilement imaginer une montée des remarques racistes. Et par conséquent, des personnes qui les reçoivent, ceux qu'elles n'apprécient guère, comme vous vous en doutez. Le problème, c'est que ce genre de défilé, c'est prévu pour être un endroit où on peut être soi, sans jugement. Alors quand tu te fais juger sur ta couleur de peau, c'est contradictoire. Parfois, c'est même vécu comme une trahison. Ce sont des choses qui se remontaient aux oreilles des organisateurs de ces manifestations, qui avaient donc plusieurs choix. Première possibilité, ne rien faire, faire l'autruche, ça marche toujours, ça règle toujours les problèmes, et puis les personnes concernées, c'est pas grave, elles iront ailleurs. Deuxième possibilité, engager plus de personnes pour encadrer les manifestations, ce qui n'est pas toujours possible pour des raisons de moyens parfois, mais aussi de formation. On ne peut pas juste balancer n'importe qui et lui dire « encadre ce petit bout-là et démerde-toi ». Faire ces formations, ça coûte du temps, de l'argent, du personnel, déjà cruellement en manque, donc pas possible. Troisième possibilité, celle qui est décrite dans l'article. On met un endroit dans le cortège où les personnes concernées pourront être à l'abri, même si ça implique de séparer les autres. Voilà, fin du contexte. Et après, la personne dit qu'elle est mal à l'aise avec la solution du coup des endroits en non-mixité, qu'elle n'aime pas cette solution, mais que si elle était à la place des personnes qui ont dû la prendre, elle ne voit pas quelle autre décision elle aurait pu prendre. Parce que si je dis « tout est mieux que de séparer des gens, je laisse des personnes risquer de subir le racisme », si je dis « la protection des personnes passe avant tout », la seule solution, c'est de faire soi-même de la discrimination. Indeed, c'est un plutôt bon résumé des problématiques autour de la non-mixité. Et je rappelle qu'encore une fois, il y a dans le même événement plein de cortèges mixtes. Donc il n'y a aucune obligation d'y aller si on est racisé. Et il n'y a aucune... genre, c'est pas... t'as pas d'alternative, quoi. Et on a quelqu'un qui dit « j'aime bien le concept de l'article, on est allé voir les militants les plus radicaux et ils sont vraiment très radicaux, CQFD ». Effectivement, bien sûr, c'est la Pride radicale. Ok. C'était l'actu selon Reddit. J'ai lancé une newsletter hier qui s'appelle All the Feels et qui parle des émotions incroyables. C'est une newsletter en accès gratuit, ce n'est pas payant, ce n'est pas sur mon Patreon, c'est sur Substack, un outil de newsletter. Et c'est un dimanche sur deux à 21h. Vous mettez votre petit mail et un dimanche sur deux, à 21h, vous recevrez une alerte, la newsletter dans vos mails ou à lire sur Substack. C'est en accès libre, donc vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site et lire le premier épisode qui est sorti hier, qui s'intitule « Se jeter à l'eau ». Voilà, merci d'avoir été là, c'était grave cool. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine et à très vite. Bye! Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. on the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.